Jacques Cheminade, je suis candidat à la présidence de la République.
Comment, selon vous, réguler la collecte et l'usage des big data?
Je pense qu'il faut, moi-même, on sait que dans mon programme, je veux immédiatement que la France dise on ne peut pas rester dans l'Union européenne, dans l'OTAN et dans l'euro, mais en même temps qu'il faut sortir par le haut, c'est-à-dire immédiatement et en même temps, voir quelle autre Europe on pourra bâtir, une vraie Europe qui sera dégagée de la tutelle financière. C'est dans ce sens qu'il y a une Europe. L'Europe actuelle est une fausse Europe, ce n'est pas la vraie Europe. En tout cas, celle que certains de ses pères fondateurs concevaient. Mais je pense cependant que dans des questions comme le big data, on peut pas, un seul pays ne peut pas seul faire ce qui doit être fait. Donc une politique européenne du numérique est nécessaire.
Faut-il encadrer la robotisation et l'intelligence artificielle dans le monde du travail?
Alors, je pense qu'on ne peut pas pénaliser les robots, comme le veut Benoît Hamon, c'est un peu revenir aux ludistes du 19e siècle en empêchant les machines de penser qu'ils conserveraient de l'emploi. Je pense qu'il faut créer les emplois de qualifiés du futur et qu'il faut vraiment s'attacher à cela aujourd'hui. Évidemment, si vous imposez le numérique, la robotisation, l'intelligence artificielle, sans créer les emplois qualifiés du futur, vous allez détruire l'emploi et détruire ce qu'est le travail humain. Alors, pour protéger ce travail humain, qui prendra des formes différentes. S'il est associé en même temps à un développement de la transformation de la matière, de la transformation du monde, ce travail humain pourra reculer et il y aura probablement moins d'heures de travail. Mais il y aura des heures qui doivent être des heures de formation permanente au cours d'une vie et qui doivent faire partie de ce travail. Et en même temps, ne pas laisser les loisirs à ses intérêts financiers qui vous balance des choses complètement irrationnelles à longueur de temps, qui touchent en particulier les gamins, les enfants, de manière, je pense, extrêmement dangereuse et qui détruisent leur capacité d'attention après de réflexion, qui est la base même de la science.
Quelle est votre perception, votre vision du travail pour l'homme de demain ?
Moi, je reviens à Marx sur ça, le travail s'empare des choses et les ressuscite d'entre les morts. Ça restera toujours. C'est-à-dire l'être humain amènera toujours des choses qui sont dans l'univers, dans un développement qui est hors de l'humain, et les ramènera à l'humain. C'est pour ça que je pense que le nucléaire doit se poser dans le sens du contrôle, de la sécurité, et de voir l'effet de ne pas le faire à l'avenir. Donc si on le fait, on peut aller plus loin dans le développement d'une société. Mais ce travail doit être associé à de grands projets. S'il n'y a pas de grands projets, qui soient les projets selon les intérêts communs de l'humanité, qui pour moi sont l'espace, y compris de mettre fin à ces débris qui sont entre 200 et 400 km de la Terre et qui empêcheraient le développement des politiques spatiales si on continuait à ne pas le contrôler. C'est les déchets dans ce qu'on appelle le 7e continent. En fait, il y a 5 îles de déchets de matière plastique. Donc il faut faire très vite quelque chose pour ça. Et il faut en même temps un développement de l'Afrique. Si vous avez tout ça, vous créez de l'emploi par rapport à ça, avec évidemment une accélération des formations dans tout ce qui sera relié au numérique, à la robotique, à la 3D, à la nanotechnologie et tout ça, qui, s'il n'y a pas ça, peuvent devenir des instruments de contrôle de l'être humain qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Et il y a des gens qui réfléchissent, pas seulement à la Silicon Valley.
Quelles mesures éducatives faut-il mettre en place, justement, pour fournir une culture numérique aux citoyens de demain, pour qu'ils puissent maîtriser les outils, les intégrer, les compétences?
Alors à l'école, moi j'ai remarqué que les gens de Silicon Valley, dont Steve Jobs avant qu'il soit décédé, ces gens de Silicon Valley prévoyaient que leurs enfants aillent dans les écoles où jusqu'à 10-12 ans, il n'y ait pas d'écran. Et je suis partisan de cela. Je pense qu'il ne faut pas mettre trop tôt dans cet état de semi-fixation, action-réaction des écrans. Parce que ça, on tombe, si l'enfant n'est pas assez formé auparavant parce que l'humanité a produit de meilleur dans toute son existence, il n'a pas des critères de jugement, c'est dangereux. Après, oui, et je disais, après 12 ans, oui, il faut... Avant, on apprend à lire, à écrire, à compter et à chanter, parce que c'est une chose qui permet un travail en commun. qui est nécessaire, il faut donner du collectif associé. Et après 12 ans, oui, il faut ajouter et à coder. Parce qu'avec des exemples concrets qui soient reliés à la vie et à la transformation de la matière, qui ne soient pas en l'air, qui soient liés à des choses qui vraiment correspondent à, pas à la simple transmission d'informations, mais la transmission d'informations pour quelque chose qui change et améliore le monde.
Donc vous avez déjà donné quelques éléments de réponse auparavant, mais quel, selon vous, faut-il poursuivre les recherches en biologie de synthèse et en génie génétique? Et si oui, comment les encadrer?
Ça, c'est une grande question. Et c'est probablement une des questions les plus importantes devant laquelle nous sommes. Parce que vous savez que j'ai noté ça, hein, je l'ai cherché parce que j'avais vu votre question, dès le 30 mai 1996, dès le 30 mai 1996, Emmanuel Hamel a posé une question au Sénat avant. Il y a eu un appel pour une évaluation des choix à l'échelle pour savoir de quelle façon on allait contrôler le génie génétique. Dès là. Depuis, je dois dire, pas grand-chose d'essentiel n'a été fait. Alors, évidemment, c'est encore plus déterminant aujourd'hui avec le CRISPR K9 qui pose le problème du couteau suisse de la génétique, comme on a dit. Et on a vu des choses quand même curieuses. La production de vaches sans cornes pour qu'elles se frappent pas les unes les autres, pourquoi pas. Des moustiques qui ne seraient pas porteurs du paludisme, ça c'est... Mais il faut mesurer dans la nature l'effet que ça fait, l'impact que ça peut avoir. Alors on a vu aussi, en Chine notamment, le passage à la manipulation génétique d'embryons à Canton. Là, il y a eu une première réaction qui était la réunion de l'Académie des sciences de Chine, de la Royal Society anglaise et de l'Académie américaine, ça s'appelle des sciences sociales de la médecine, qui se sont réunis et qui ont dit moratoire. Évidemment, on ne peut pas décider comme ça un moratoire et que le moratoire se produise. Mais quand même, il y a une référence morale qui se trouve là. Alors, évidemment, la recherche s'est poursuivie. Il y a eu des recherches sur des patients atteints de cancer du poumon ou la modification des lymphocytes T dans la résistance. Il y a eu toute une recherche sur ce plan-là. Alors comment éviter les dérapages et garder cet impératif de recherche dans ce sens-là? Alors, on sait même qu'il y a en France un conseil national consultatif pour la biodiversité, mais qu'il est sous l'autorité du secret défense et militaire, et qui vient de produire un rapport, là, fin 2016, dans lequel il est dit qu'il y a un danger des manipulations génétiques en termes de défense, pas seulement le CRISPR-Cas9, mais un potentiel de détournement des progrès dans la biologie de synthèse. Donc c'est tout un domaine, hein. Et on sait qu'il y a un accès relativement rapide et facile au séquençage de génome. Donc c'est très dangereux. Et de ce point de vue-là, évidemment, ce n'est pas suffisant de laisser à l'aspect défense la suite du génétique. Ça ne concerne pas seulement ça, ça concerne toute la société. Alors, il y a des références comme l'International Gene Synthesis Consortium, mais c'est des références qui sont des références. Je pense que la solution, c'est une autorité publique française et européenne sur le contrôle de la génétique. Il faut que pour le nucléaire, il y ait une autorité publique. Et cette autorité publique soit liée à l'autre autorité de santé, et qui est une véritable mise en place de règles concernant les applications de la génétique. Sans ça, toutes les tentations et tout le dérapage, y compris celles du transhumanisme, sont là.
Justement, une transition toute trouvée. Le transhumanisme est-il, selon vous, un progrès ?
Ça dépend ce qu'on entend par ce mot. Si c'est la volonté de puissance humaine de rendre l'homme immortel, non, c'est certainement pas un progrès. Et il y a cette idéologie, la Silicon Valley notamment, on voit réservé à des gens qui auraient les moyens et la puissance. C'est le programme Calico de Google. Et puis, il y a l'idée que Eh bien, c'est une question d'idéologie, parce que dans la Silicon Valley, qu'est-ce que c'est, hein? C'est des hippies bien sympathiques et rigolos devenus arrivistes, à la combinaison avec des dépenses militaires, et le militaire est très fort dans la Silicon Valley, et en même temps, un développement et d'application pour des raisons financières et de bénéfices de toutes ces choses, avec une conception de l'homme nouveau, qui à mon avis est toujours très dangereuse. Il faut améliorer l'homme, mais pas penser qu'on aura un homme nouveau. Et là, cette idée d'homme nouveau, c'est une idéologie qui à mon avis a eu dans l'histoire de très très mauvais exemples qui nous ont précédés. Mais cependant, il y a dans les recherches concernant la santé la possibilité d'augmenter la longévité de l'homme. Moi, je crois que ça, oui. Et ça n'a rien à voir avec l'idéologie transhumaniste. C'est simplement quelque chose qui est une réalité dans les progrès de la médecine. Et là aussi, évidemment, il faut l'encadrer. Alors, je sais qu'il y a un livre qui vient de paraître d'un docteur qui dit résistez 20 ans et dans 20 ans, vous pouvez vivre beaucoup plus longtemps. Moi, je crois que ce genre de tirade, c'est vraiment quelque chose un peu commercial. Mais je pense cependant qu'on peut vivre 100 ans dans de bonnes conditions de santé avec quelque chose qui est le maintien dans un état en amont de 50 ans, un maintien dans un état de santé mentale et physique qui doit se maintenir, et que, évidemment, là se pose la grande question, vous avez vous-même posé, de la prévention. Et qu'on doit penser à cette chose en termes de prévention pour pouvoir vivre plus longtemps. Et pas seulement en termes de ces gens qui, dans le transhumanisme, se font congeler ou je sais pas quoi d'autre chose en espérant revenir au moment où la science aura fait des progrès. Tout ça fait penser à plus à Frankenstein qu'à la réalité scientifique.
Mais faut-il imposer une limite à l'augmentation et à la longévité de l'homme
Je crois qu'on ne peut
lui-même?
pas. À l'augmentation de la longévité, on ne peut pas, si les choses se réalisent. On peut imposer une limite au trafic et aux manipulations en vue pour des moyens, disons, tout à fait contraires au respect de la vie humaine qui se pratiquent dans ces institutions.